Chapitre 65. Prudemment, Gabriel se remit à avancer avec ce mot abominable incrusté dans son crâne. Chmielnik et Traskman ne pourraient jamais payer pour leur crime parce qu'ils étaient partis avec leur secret. Mais Gabriel traquerait jusqu'au dernier ceux qui, de près comme de loin, étaient impliqués dans le calvaire de sa fille. La lumière de sa torche révéla dans une autre allée encadrée d'alvéoles un transpalette électrique planté en plein milieu comme si son chauffeur s'était soudainement volatilisé. Ses deux fourches léchaient le ras du sol. Gabriel s'en approcha. Si le site était abandonné, pourquoi cet engin était-il toujours ici? Il glissa ses doigts sur le siège du cariste et nota l'absence de poussière. À l'évidence, le véhicule avait servi récemment. La tension monta d'un cran et il resta immobile, retenant son souffle. Depuis sa descente dans les rues de Bruxelles, il sentait le danger rôder. La pluie frappait contre la toiture sans aucune nuance. Mais les barils, les allées, les perspectives figées finirent par le rassurer. Bien sûr, il n'y avait personne. Il n'avait remarqué aucun véhicule, l'entrepôt était fermé de l'extérieur, et durant son trajet, il avait jeté à plusieurs reprises des coups d'œil dans son rétroviseur. Sur les routes de campagne, personne n'aurait pu le suivre sans qu'il s'en aperçoive. Il observa de nouveau l'engin, puis leva les yeux jusqu'au plafond. Ses conteneurs, à perte de vue, ayant jadis renfermé des produits extrêmement dangereux. Il tapa sur d'autres réservoirs de plastique au fil de sa marche. Bang, bang. Vide, tous vides. Alors pourquoi le transpalette? Enterrement, bûcher, donner à manger à des cochons, saut des bains. Arrivé à l'autre bout du bâtiment, il écarta un rideau de lanière en plastique noir et se retrouva aux abords de l'aire de fret dont il avait vu la porte soudée dehors. C'était ici que, à l'époque, les camions sécurisés chargeaient et déchargeaient les barils. Des chaînes armées de gros crochets pendaient, des palans, des treuils et des pinces hydrauliques destinées à saisir le matériel se dessinaient dans l'air tels des instruments du diable. Sur la droite se dressait une grande cuve cylindrique et vide, en plexiglas, de peut-être 2,50 m de haut, avec un robinet à hauteur de poitrine. Gabriel découvrit également des cordages, des dizaines de jerrycans et deux bâches noires que sa lumière fit luire dans l'angle à côté de la porte coulissante. En s'en approchant, il comprit qu'il ne s'agissait pas de bâches, mais de sacs mortuaires posés à même le sol. Deux sacs en plastique, côte à côte, avec la fermeture remontée jusqu'en haut. La forme, l'épaisseur, il n'eut aucun doute. Il contenait des corps. Il se mit à genoux, presque religieusement, avec l'impression d'être un randonneur épuisé arrivé au bout du chemin, conscient que le retour serait encore plus difficile et douloureux que l'aller. Il fut happé par une forte odeur de produits d'hôpital, du type alcool à 70. Mais ce n'était pas exactement ça. Cette odeur-là, plus âpre, prenait aux poumons. Sa main droite tremblait tellement qu'il dut cercler son poignet avec sa main gauche pour la guider jusqu'au fermoir du premier sac. Le bruit provoqué par les dents métalliques qui s'écartaient lui fut insupportable. Face à lui, un corps de femme, au crâne, aux sourcils, au sexe rasé, paupières baissées, d'une blancheur de talc. Le front haut, les pommettes saillantes, la mâchoire carrée. Il fut soulagé de ne pas reconnaître Julie et pensa immédiatement à un individu d'origine est-européenne. Il identifia enfin les effluves qu'il sentait lorsqu'il toucha du bout de l'index la peau d'un de ses bras qui sembla en plastique, du formol. Comme si cet être, dont l'âge devait tourner aux alentours de la cinquantaine d'années, sortait d'un bassin de conservation. Le nez enfoui dans son blouson trempé, il se décala vers le deuxième sac. Dans son mouvement, il crut entendre un raclement d'acier provenant du tréfonds de l'entrepôt. Il coupa immédiatement l'éclairage de son téléphone, se redressa et fonça vers les lanières, à l'affût. Les allées d'alvéoles, le profond couloir central, le tout perdu dans l'obscurité. Ses pupilles dilatées cherchaient à capter le moindre photon. Il se concentra sur le rythme de la pluie sur la tôle, retint son souffle, attentif aux variations anormales. Rien. Personne. Il resta sur ses gardes. Celui ou ceux qui avaient déposé ses cadavres allaient sans doute revenir. Après une bonne minute sans bouger, il retourna vers les emballages, dézippa le second. Il mit sa main sur sa bouche. À l'odeur de formol s'ajoutait celle naissante de la putréfaction. Il découvrit un autre corps de sexe féminin, plus abîmé. Rasé, anonymisé de la même façon, environ de la même taille et dans la même tranche d'âge que l'autre. Il lui manquait le sein gauche. À la place, une cicatrice témoin de l'ablation. Gabriel brandit son portable et prit des photos sous tous les angles. Le flash illumina la pièce. Les faces imberbes surgissaient alors dans la nuit, pareilles à des masques de terreur, pour se fixer dans la mémoire du téléphone. Il mitrailla, incapable de comprendre la raison de la présence de ces cadavres ici. D'où venaient-ils? Qui les avait déposés à cet endroit? Quel était le lien avec son enquête? Avec Julie? Une bourrasque fit gémir la tôle. La pluie se fracassa comme si une coupe de cristal géante avait explosé au-dessus de sa tête. Gabriel grelottait dans ses vêtements humides. La météo était à l'image de ses sentiments. Un mélange de colère, de larmes, de chaos. Il décida de composer le numéro de Paul. Il devenait urgent de faire un point avec lui, en toute transparence cette fois. Les flics belges devaient maintenant mettre leur nez dans cette sordide histoire. Soudain, il entendit de nouveau un bruit de métal. Un courant électrique le parcourut de la tête aux pieds, les signaux du danger imminent. Toujours agenouillé, il se retourna et mit une fraction de seconde de trop à comprendre ce qui arrivait. Une longue chaîne brune armée d'un crochet jaillit des ténèbres dans un mouvement parabolique parfait. La masse d'acier trempé vint le cueillir au niveau de la tempe gauche, alors qu'il tentait dans un ultime réflexe de s'écarter de la trajectoire folle. Le choc le propulsa vers l'arrière, tel un boxeur qui se prend un uppercut anthologique. La dernière chose qu'il sentit fut la chair flasque de l'un des cadavres collée contre sa joue.